Il existe de l'autre côté de l'Atlantique une émission télévisée qui s'appelle Shark Tank, le bassin aux requins, le bassin des requins. Alors, à ma connaissance, elle n'a pas encore été importée en France, sans doute parce que nous ne sommes pas tout à fait assez capitalistes pour cette émission dans ce pays. Mais le principe, c'est que quelqu'un vient présenter un projet commercial devant quatre entrepreneurs, devant quatre grands entrepreneurs qui ont fait fortune. Et les membres de ce jury peuvent choisir d'investir dans l'un des projets qui leur sont présentés si ce projet leur paraît convaincant. Mais souvent, les projets ne convainquent pas les jurés. Et en fait, c'est un petit peu comme dans Nouvelle Star, etc., où parfois il y a des projets qui sont un peu tournés en ridicule. Et on fait bien sentir à ceux qui les présentent qu'ils n'ont vraiment aucune chance. Et lors d'une de ces émissions, un agriculteur du nom de Johnny George s'est présenté devant le jury avec un produit improbable, le tipi pour arbre, qui permet une irrigation des arbres plus efficace. Et ça, pour le coup, c'est un fait qu'apparemment, ça améliore vraiment l'irrigation des arbres. Alors, Johnny est un homme du terroir. Il a peu de connaissances commerciales. Il ne s'exprime pas forcément très bien. Par ailleurs, il y a des choses un peu particulières dans son projet. Par exemple, il vend son produit très peu cher, il fait très peu de marge dessus. On lui demande, mais comment ça se fait? C'est parce qu'il ne veut pas mettre en difficulté les clients, il ne veut pas mettre en difficulté les autres agriculteurs comme lui. Et on s'aperçoit qu'il n'a pas vraiment de stratégie commerciale à une échelle plus grande que juste un petit peu son voisinage, ses alentours. Et donc, trois des jurés lui disent que son projet ne tient pas la route, que son produit est peut-être intéressant, mais qu'il a pas, voilà, ça ne tient pas la route. Et là, face aux critiques, l'homme ne sait plus trop quoi dire, il a même les larmes aux yeux. Et à ce moment-là, contre toute attente, le quatrième juré, qui n'avait rien dit jusque-là, dit « Je te donne tout ce que tu demandes ». Alors les autres le regardent, complètement stupéfaits. Pourquoi ? Et là, l'homme explique « Les agriculteurs sont l'âme de ce pays. Je suis touché par ce projet. Je veux être ton partenaire. » Et on sent même les autres jurés assez émus par ce retournement total de situation. À infiniment plus grande échelle, c'est un petit peu ce qui se passe dans le texte de ce soir. Un renversement total de situation. Ces quatre dernières semaines, nous avons pu parcourir ensemble dans la lettre aux Romains le sombre réquisitoire de l'apôtre Paul contre la condition humaine, en fait, contre la condition de l'homme pécheur. Et le constat est sans appel, et on l'a vu, tous les êtres humains, quels qu'ils soient, se sont, d'une manière ou d'une autre, détournés de Dieu, chacun à sa manière. Et la première partie du chapitre se termine par ces paroles particulièrement implacables de l'apôtre Paul, chapitre 3, verset 19, « Que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. » C'est dur, comme toute cette section de la lettre aux Romains. Et pourtant, l'apôtre n'écrit pas ces paroles, ces lignes, pour accabler ses lecteurs. Il les écrit au contraire pour que nous comprenions bien pourquoi l'humanité a tant besoin de cette bonne nouvelle qu'il va commencer à dévoiler dans le texte de ce soir. Et cette transition donc de la mauvaise nouvelle de notre situation en tant qu'être pécheur à la bonne nouvelle est marquée dans le texte par un petit « mais » au verset 21, qui apporte vraiment une rupture dans ce texte. « Mais maintenant », verset 21, « mais maintenant », un « mais » qui change tout. Alors, Sophie a lu à juste titre les versets 21 à 31 du chapitre 3, c'est le passage que nous examinons ce soir, mais je précise que je vais particulièrement accorder mon attention aux versets 21 à 26. Et je vous propose d'examiner trois aspects de ce retournement de situation que le texte nous dévoile. La fin de la colère, le don de la justice et l'invitation de la foi. Dans un premier temps, donc, la fin de la colère. Ce long réquisitoire, ce discours accusateur de Paul, il a commencé au chapitre 1, verset 18, avec cette phrase particulièrement frappante, tranchante, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. » Et si vous étiez là Il y a quelques semaines, vous vous rappellerez peut-être que la colère de Dieu, on a vu que ce n'est pas une sorte d'emportement incontrôlé, ce n'est pas une sorte de rage de Dieu, mais c'est plutôt la juste réaction du Dieu créateur devant ce que l'homme est devenu et devant ce qu'il a fait du monde. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu concept, ce n'est pas un Dieu algorithme, c'est un Dieu personnel et relationnel, un Dieu qui aime, un Dieu qui ressent, un Dieu qui est en colère face à l'injustice et face au mal. Et on a vu ces dernières semaines que l'apôtre Paul consacre une longue section de sa lettre à montrer que personne n'échappe à cette condition d'homme et de femme ou de femme pécheur, et que par conséquent, si Dieu est en colère contre l'homme pécheur, eh bien, Dieu est en colère contre tous. Personne par lui-même ne peut espérer échapper à cette colère de Dieu. Le verset 23 de notre texte récapitule ce constat. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors être privé de la gloire de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Dans le contexte et la manière dont Paul utilise ce mot avec en arrière-plan l'Ancien Testament, plusieurs passages de l'Ancien Testament, être privé de la gloire de Dieu, en fait, ça veut dire être privé de ses promesses, privé d'un avenir magnifique avec Dieu. C'est être en dehors de ses projets. Or, Paul nous dit que, a priori, c'est la situation de tous en raison de notre péché. Quel espoir pourrait-il bien rester lorsqu'on entend un verdict aussi terrible? Et c'est là qu'intervient ce « mais maintenant », verset 21. Et je vous propose d'aller voir tout de suite un peu plus loin au verset 24 et 25. Ils, c'est-à-dire ces hommes qui étaient condamnés, sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Alors je vais vous apprendre un mot que vous pourrez peut-être utiliser la prochaine fois que vous voulez impressionner quelqu'un. Peut-être un dîner mondain, parce que je sais que vous en fréquentez régulièrement, ou peut-être un entretien d'embauche, même s'il faudra faire preuve d'un peu de créativité pour placer ce mot dans un entretien d'embauche. Peut-être si vous postulez pour être pasteur. Mais en tout cas, dans le texte original écrit par l'apôtre Paul en grec, le mot du verset 25 qu'on traduit ici et généralement par victime expiatoire, il se réfère en fait un peu plus précisément à ce qu'on appelle la propitiation. Voilà le mot que vous pourrez sortir. Et qu'est-ce que c'est la propitiation? C'est le détournement de la colère. Le détournement de la colère. Et donc, littéralement, il faudrait plutôt traduire au verset 25, c'est lui, c'est Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang une victime propitiatoire. Je crois qu'il y a une traduction de la Bible Darby, qui traduit ainsi. Mais en général, plutôt que de traduire par ce mot que personne ne comprend, on traduit par le mot expiatoire, qui n'est pas non plus dans le langage quotidien, mais qui est quand même un peu moins difficile. Et l'expiation, ça veut dire effacer une faute, en gros, effacer une faute. Et c'est vrai, Jésus efface la faute, et c'est au cœur de son œuvre sur la croix. Mais beaucoup de spécialistes estiment que Paul dit plus que cela ici. Il ne se contente pas de dire que Jésus a effacé la faute, ce qui est déjà énorme, mais en utilisant ce fameux mot, il nous dit que par son sacrifice sur la croix, Jésus a détourné la colère de Dieu. Alors bien sûr, cette notion, ça fait bondir beaucoup de gens. Détourner la colère de Dieu. Mais est-ce que ça ne rappelle pas des rituels païens, primitifs, qu'il fallait calmer en quelque sorte une divinité? Il fallait conjurer le sort en quelque sorte? Mais penser cela serait profondément mal comprendre ce que nous dit l'apôtre Paul ici et ce que nous dit l'ensemble de la Bible. Dans les religions païennes, si on veut faire cette comparaison, d'abord les dieux sont vus généralement comme imprévisibles. Ils ont l'humeur changeante, on ne sait jamais trop comment ils vont réagir, ils ont des sentiments incertains. À l'inverse, il n'y a rien de plus prévisible, de plus stable et déterminé que l'opposition du Dieu de la Bible au mal. Ça, on peut être sûr que Dieu s'oppose toujours au mal et que sa colère face au mal est justifiée. L'autre différence essentielle, c'est que dans les par rapport aux divinités païennes, c'est l'homme, c'est celui qui vient apporter, faire un rituel, etc. C'est l'homme qui doit lui-même trouver le moyen d'apaiser la colère de la divinité en accomplissant tel ou tel rituel. Or ici, Paul nous dit que c'est Dieu lui-même qui a détourné sa propre colère par la mort de Jésus sur la croix. Et sans pouvoir entrer maintenant dans ce qu'on appelle la doctrine de la Trinité, la Bible nous dit qu'en Jésus, c'est Dieu qui était sur la croix, Dieu qui a pris la condition humaine et qui l'a fait précisément pour aller jusqu'à la croix. Alors j'espère qu'on saisit bien les conséquences stupéfiantes de ce que Paul nous dit ici. À la croix, Jésus s'est présenté librement et volontairement en représentant de toute l'humanité. Et cette colère de Dieu contre le péché des hommes, dont Paul nous parle depuis le chapitre 1, eh bien, il l'a subie à notre place pour que nous n'ayons plus jamais à y faire face. Dieu pose sur ceux qu'il a sauvés, non plus un regard de colère, mais un regard de faveur, un regard favorable. Voilà le premier élément donc qu'il faut relever à propos de ce « mais », cette bonne nouvelle qui change tout, le détournement de la colère. Maintenant, on en vient au deuxième, le don de la justice. L'une des plus célèbres affaires judiciaires françaises de ces 20 dernières années, c'est l'affaire Patrick Dils. Il a été condamné, Patrick Dils, en 1989 pour un double meurtre et acquitté en 2002 par la cour d'assises du Rhône qui a estimé qu'il y avait eu une erreur judiciaire. Quand la cour d'assises a acquitté Patrick Dils, elle ne s'est pas contentée de juste le libérer de prison, en disant « Allez, c'est bon, tu peux y aller ». Elle a ôté toute charge pesant contre lui. Elle a déclaré son innocence. C'est le principe d'un acquittement. Ce n'est pas simplement qu'on permet une sortie de prison. Ça, ce serait un aménagement de peine, par exemple. Mais c'est dire qu'il n'y a plus de charge retenue contre l'accusé. Alors, la comparaison s'arrête là avec cette affaire, évidemment. Mais dans ce paragraphe, une fois de plus, l'apôtre Paul a recours à un vocabulaire de type juridique. Et lorsqu'il utilise ce verbe « justifier », qu'on retrouve au verset 24, verset 26, verset 28, traduit ici par « déclarer juste », eh bien, ce verbe « justifier », à l'époque, il voulait à peu près dire ce qu'on dit lorsqu'on dit « acquitter » aujourd'hui. On a toujours trouvé des petites nuances, mais en gros, ça voulait dire acquitter. Paul donc utilise ce verbe trois fois. Il parle aussi de la justice de Dieu, verset 21, verset 22, verset 25, verset 26. L'apôtre Paul vient de nous dire, à la fin du texte de la semaine dernière, que personne ne sera considéré comme juste devant lui, devant Dieu, sur la base des œuvres de la loi. Verset 20. C'est-à-dire que l'homme peut essayer de toutes ses forces d'être quelqu'un qui obéit à la loi de Dieu, mais jamais cette loi ne pourra le rendre juste. Parfois, elle le défendra, cette loi, mais très souvent, elle l'accusera. Et en fait, elle ne fera, dans un sens, que mettre en évidence ses défaillances. Et donc, l'impasse semble totale. L'homme pécheur se présente face à la loi de Dieu et il est trouvé coupable encore et encore. Mais c'est ici qu'intervient à nouveau ce « mais » du verset 21. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. À l'opposé de l'injustice de l'homme dont il a été régulièrement question depuis le chapitre 1, il y a la justice de Dieu. Une justice qui normalement, logiquement, devrait nous condamner. On l'a vu. Mais maintenant, Dieu a décidé d'inverser son verdict sur l'humanité. Il a décidé de regarder cet homme coupable, cet homme pécheur, et en quelque sorte, sans le moindre mérite de la part de l'accusé, de déchirer l'acte d'accusation et de le remplacer par un mot, comme par un tampon, juste, acquitté. Voilà ce qu'est la justification. Dieu déclare juste celui qui, en fait, était injuste. Et là, une objection semble inévitable, parce qu'on vient de passer deux chapitres et demi, et vous avez été patient, comme disait Paul notre Paul la dernière fois. Vous avez été patient avec ces textes assez durs, pleins d'accusations face à l'homme pécheur. Mais on vient de voir justement que la condamnation de Dieu à l'égard de l'homme pécheur, elle est juste. Elle est méritée. Et non seulement cela, mais Dieu, par sa nature même, il doit condamner le mal. Il doit juger le pécheur. Il ne peut pas faire comme si le mal était bien. Alors comment est-ce que l'apôtre Paul, après tout ce réquisitoire, peut dire maintenant que Dieu déclare l'homme pécheur juste ? Eh bien là encore, la réponse incroyable que Dieu apporte, que l'apôtre Paul apporte ici en tant que porte-parole de Dieu, c'est la croix. Verset 24. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il la démontre dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Un texte dense, pas très facile. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire par là ? Eh bien, de même que Jésus a librement accepté de mourir à notre place pour être à notre place l'objet de la colère de Dieu, ce qu'on a vu tout à l'heure, il a accepté de mourir en subissant à notre place la peine, la condamnation que mérite notre culpabilité. Et cette peine, c'est donc justement la condamnation, le jugement de Dieu, la mort, et pas seulement la mort physique, mais la mort spirituelle qui est en quelque sorte la malédiction de Dieu, le fait d'être séparé dans un sens de Dieu, que toute relation avec lui soit brisée. Alors il y a beaucoup de mystères, puisque Jésus est le Fils de Dieu. Comment est-ce que cette séparation en quelque sorte a pu avoir lieu ? Et je ne vais certainement pas essayer de le résoudre ce soir, ce mystère. Mais à la croix, quand Jésus a poussé ce terrible cri, « mon Dieu, pourquoi ?» m'as-tu abandonné ? Matthieu 27, verset 46. Pour un temps terrible et inimaginable, eh bien Jésus a été accablé de la condamnation du Dieu juste et saint contre l'homme rebelle et pécheur. Jésus a subi la peine, la punition à notre place. Et ainsi, nous dit Paul, Dieu a démontré sa justice parce qu'il a appliqué sa condamnation contre l'homme pécheur. Mais il l'a fait tomber sur Jésus, à notre place. Et la conclusion de cela, c'est que si nous recevons ce don qui nous est fait, nous ne sommes plus coupables aux yeux de Dieu. Et pourtant, Dieu sait, il nous connaît. Il sait à quel point nous sommes défaillants. Mais notre peine a été purgée. Nous sommes maintenant justes aux yeux de Dieu. Et écoutons ce qu'écrit Paul, ou lisons ce qu'écrit Paul dans sa lettre aux Colossiens. Cette phrase tellement forte. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Colossiens 2, verset 14. Et là, on commence à mieux comprendre, s'il le fallait, pourquoi l'apôtre Paul parle de bonne nouvelle. Mais là, une autre objection peut surgir, parce que je sais que vous êtes des gens qui réfléchissaient beaucoup et qui objectaient peut-être de temps en temps. Pourquoi fallait-il que Jésus aille à la croix et y meure ? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas simplement décidé de nous pardonner sans qu'il y ait besoin de ce sacrifice ? Pourquoi est-ce que Dieu ne pouvait pas simplement dire « Je vous pardonne » et est-ce que ça n'aurait pas suffi ? Alors, là encore, je crois qu'il faut reconnaître une part de mystère. Cela dit, Paul nous donne au moins un élément de réponse au verset 26. Il fallait que Dieu soit juste alors même qu'il déclarait juste l'homme pécheur. En ce moment, débute la procédure judiciaire contre Salah Abdeslam, terroriste présumé des attentats du 13 novembre. Que dirions-nous si le juge déclarait un jour « J'ai envie de pardonner à Salah Abdeslam. Il mérite un terrible jugement, on est bien d'accord, mais je vais lui pardonner et je vais le remettre en liberté. » Voilà, je décide ça. Est-ce que nous trouverions ça juste ? Non. Et on imagine la colère des familles des victimes. Il est bon que justice soit rendue, que justice soit faite. Et simplement décider comme ça que justice ne sera pas faite, ça peut peut-être avoir l'apparence de quelque chose de beau, mais en fait, ce n'est pas juste, précisément. Dans le cas du péché de l'homme, qui est le coupable ? C'est l'homme. Qui est la victime ? Dans un sens, c'est Dieu. C'est lui qui a subi l'offense. La nature même du péché, c'est de se détourner de Dieu. Eh bien, Dieu a plus forte raison que nous encore, parce qu'il est parfaitement juste, il exige que le mal soit puni. Mais au nom de la liberté absolue qui est la sienne, et par amour pour nous, il a choisi de concentrer sur son Fils Jésus-Christ, lui qui n'a jamais offensé Dieu, le seul qui n'a jamais été coupable à ses yeux, eh bien il a choisi de concentrer sur lui le jugement que nous méritions. Et en vertu de ce sacrifice auquel Jésus a consenti en tant que représentant de l'humanité, Dieu nous déclare juste à ses yeux. Justice a été faite, mais elle est tombée sur Jésus qui s'est volontairement donné pour cela. Cette justification, donc, ce n'est pas un concept doctrinal, abstrait, complètement théorique. C'est en fait une invitation à une vie radicalement nouvelle. Et si vous êtes en train de consacrer toutes vos forces à justifier votre vie, à vous prouver et à prouver aux autres, à essayer de prouver aux autres par vous-même que votre vie est valable, qu'elle vaut la peine, que vous n'êtes pas en train de perdre votre temps en vivant. Si c'est ça votre démarche, et je crois que c'est la démarche d'une majorité d'êtres humains, et c'est souvent la nôtre, même pour nous qui sommes chrétiens, si c'est notre démarche, nous sommes en train de poursuivre le mauvais objectif. L'Évangile nous dit, la bonne nouvelle de Jésus nous dit que nous n'avons plus jamais à justifier par nous-mêmes notre existence. Parce que Dieu, qui est le juge ultime, nous déclare juste à ses yeux. Et donc, qu'est-ce qu'il nous faut rechercher dans cette vie ? Dieu lui-même. Recherchons Dieu et laissons-le s'occuper du reste. Laissons-le donner du sens à notre vie. Lui qui est notre créateur, il est de loin le mieux placé pour cela. Et c'est précisément ce que dit Jésus lorsqu'il dit « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus ». C'est Dieu qui rend nos vies valables, c'est son approbation qui compte, et cette approbation, il nous l'offre gratuitement, nous dit le verset 24. Alors recherchons Dieu, il s'occupera du reste. La fin de la colère, le don de la justice, j'en arrive plus brièvement, et pour terminer à la troisième dimension de ce mais du verset 21, l'invitation de la foi. Au point où nous en sommes, la question pourrait se poser, mais est-ce que finalement le salut, c'est quelque chose qui se passe uniquement dans les hautes sphères, à très lointaine distance de nous, quelque chose que nous subissons de manière passive, sans être impliqués de quelque manière? En fait, peut-être que Dieu finalement appuie sur un bouton, paf, justifié, et le tour est joué. Et bien sûr, la réponse à cette question, c'est un non franc et massif. Parce qu'il y a un autre mot-clé qui revient tout au long de ce texte, le mot « foi ». Il revient 6 fois, verset 22, verset 26, verset 27, verset 28, verset 30, verset 31, la foi. Le salut vient exclusivement de Dieu, on l'a vu. Il l'a accompli de A à Z en Jésus, à la croix. Mais il nous invite à placer notre foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire à recevoir ce qui nous est offert. Et Paul nous parle au verset 1 de la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. La foi en Jésus est une condition nécessaire à la réception du salut. Pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu relationnel. Il nous invite personnellement à entrer en relation avec lui. Mais ici, il faut faire attention à ne pas mal comprendre. Il arrive que des chrétiens disent, et que peut-être nous-mêmes nous soyons tentés de penser, « Oui, d'accord, le salut, il est par la grâce de Dieu, c'est bon, j'ai compris. Mais attends, j'ai quand même un petit peu de mérite, parce que j'ai cru, moi. » À plein de monde qui ne croit pas, ben moi j'ai quand même cru. Alors ça doit bien valoir quand même quelque chose. C'est bien parce que j'ai la foi, et c'est quand même pour ça que Dieu s'est dit « Ah, celui-là, c'est bon, il a la foi, allez hop, ça va. » Dire cela, c'est passer complètement à côté de ce que Paul nous dit de la foi dans ce texte. C'est frappant de voir à quel point dans tout le texte, Paul oppose la foi aux efforts humains. Verset 28, « Nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. » Alors pourquoi est-ce que l'apôtre semble opposer la foi et les efforts humains? Eh bien parce que pour lui, comme dans le reste de la Bible, la foi, c'est précisément le fait de reconnaître notre besoin de Dieu, le renoncement à essayer de nous en sortir par nous-mêmes. C'est ça la foi. Et la foi en Jésus, c'est le fait de reconnaître qu'on ne pourra pas y arriver par nous-mêmes, mais que Jésus, lui, a fait tout ce dont nous avons besoin. Croire en Jésus, c'est dire, Jésus, je reconnais que je n'y arriverai pas, je ne peux rien faire par moi-même pour être juste aux yeux de Dieu, pour rendre ma vie juste par moi-même, et donc je m'appuie sur ta justice. Je reconnais que si je peux connaître Dieu, c'est en vertu de ce que tu as fait sur la croix, parce que tu es mort à ma place. Tu as payé le prix que je méritais. Imaginez quelqu'un qui vous invite chez lui, et en plus de vous inviter à manger chez lui, vous propose d'aller vous chercher en voiture, vous donne une chambre aussi chez lui que vous pouvez utiliser pour vous reposer, vous apporte le café. Vous imaginez ensuite dire à quelqu'un d'autre, « Ouais, d'accord, c'est vrai, il m'a invité, mais attends, j'ai quand même du mérite, j'ai accepté l'invitation, j'ai répondu quand il est venu sonner à ma porte. » C'est ridicule, parce que oui, votre ami vous a invité personnellement, il a fait appel à votre volonté parce qu'il y a une relation là. Mais ce n'est pas pour ça que vous avez du mérite à avoir été invité. C'est un non-sens. Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ, de A à Z. Il nous propose de reprendre notre vie entre ses mains et de nous rétablir dans notre vocation humaine, dans la vie véritable. Il n'attend pas les bras croisés que nous allions le trouver. C'est lui qui est venu nous chercher et qui nous invite à recevoir ce qu'il nous a donné. Mais il nous invite, c'est vrai, à prononcer le oui de la foi en réponse à son invitation. Mais il nous prévient, et la suite de la lettre aux Romains le montrera, si nous répondons à cet appel, plus rien ne sera comme avant. Je vous invite à prier. Notre bon Père Céleste, nous te remercions parce que nous étions réellement perdus, incapables d'être trouvés justes à tes yeux, et même l'objet de ta colère, de ta juste colère, parce que tous, d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes compromis avec le mal, nous nous sommes détournés de toi. Mais tu nous invites à placer notre foi, notre pleine confiance en celui qui a pris notre place devant ta justice et dont la condamnation nous a rendus libres. Nous te remercions parce que la mort qu'il a subie ne pouvait pas le retenir, parce qu'il est ton fils, parce qu'il est lui-même Dieu. Tu l'as ressuscité. La vie a triomphé de la mort. La grâce a triomphé du jugement. Et nous pouvons recevoir ce don qui nous a été fait, en sachant que tu as tout accompli pour nous. Nous voulons te dire merci pour cela. Je voudrais te demander, Père, que s'il y en a encore parmi nous ce soir qui se privent de cette relation que tu nous offres, à laquelle tu nous invites, qu'ils ne tardent plus à devenir tes disciples. Au nom de Jésus. Amen.